vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net à votre service.
Bon, 18h à Kinshasa, 19h si vous nous écoutez en ce moment du côté de Massissi. C'est l'heure de vous proposer le journal en français.
Radio Okapi.
À la présentation du journal, Pascal Massirika.
Les titres de l'actualité, ouverture ce lundi du procès sur le meurtre du général Delphin Kayimbi, ancien chef de renseignement militaire de la RDC, devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, siégeant à la prison de Makala. Six prévenus ont comparu. La partie civile a sollicité et obtenu une remise au 10 mai prochain. Plus rien ne va à l'organe délibérant du Lualaba. Des députés veulent déchoir les membres du bureau. Entre-temps, un ministre provincial a démissionné et deux autres sont suspendus par le gouverneur intérimaire. Notre invité, c'est le président du comité de suivi des accords signés entre les groupes armés d'Uvira, Fizi et Mwenga. Au sud Kivu, Maître Matabishi Rachidi parle des déplacés internes de Bouéguéra et enfouit les affrontements dans les hauts plateaux de la chefferie de Bafouliru. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouverture ce lundi à Kinshasa du procès sur le meurtre du général Delphin Kayimbi, ancien chef des renseignements militaires de la RDC, devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala. Les six prévenus ont comparu en audience d'introduction. La partie civile a sollicité et obtenu une remise au 10 mai prochain. Le compte-rendu de Jeff Ngoy.
Brendan Coy et Scholastique Mondo, respectivement la veuve et la belle-mère du général, sont prévenus d'homicide volontaire avec préméditation sur Delphin Kayimbi. Claudina Aminata, Jeannot Amoudiandroy, Jérémy Kaminouna et Olivier Albert Makita sont prévenus d'avoir aidé à la commission d'assassinat. Les deux premières sont en résidence surveillée, tandis que les quatre autres comparaissent comme détenus. Tous plaident non coupables et sollicitent la liberté provisoire. Le tribunal promet de leur répondre ce mardi. Rappelons que Delphin Kayimbi a été retrouvé mort dans sa maison à Binza-Pigeon le 28 février 2020. Auparavant, il répondait aux questions du CNS sur des allégations d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. En attendant d'élucider les circonstances de sa mort à travers ce procès, l'enquête avait révélé des traces de strangulation sur le corps du défunt, selon le chef de l'État. Plus de 1000 pages gisent à son dossier.
Merci Jeff Ngoy pour ces précisions. Ouverture également aujourd'hui du procès de Caleb Moutonde contre Jean-Claude Muyambo et consorts devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. L'affaire est en instruction. À cette première audience publique, les avocats de l'ancien administrateur général de l'ANR ont sollicité une remise pour permettre à leurs clients de comparaître physiquement. Le tribunal a remis l'affaire au 10 mai prochain. Pour mémoire, Caleb Moutonde est accusé d'arrestation arbitraire, de torture, de traitement inhumain et de tentative d'assassinat. Il s'est constitué un parti civil en portant plainte contre ceux qu'il accuse. Seulement voilà, c'est depuis 50 jours qu'il est introuvable. Malaise à l'organe délibérant du Lualaba. Des députés provinciaux ont initié des pétitions pour déchoir tous les membres du bureau. Entre-temps, un ministre provincial a démissionné et deux autres sont suspendus par le gouverneur intérimaire pour diverses raisons, dont la mauvaise gestion pour l'un d'eux. Pour en parler, retrouvons à Lubumbashi Jean Gandou.
À l'Assemblée provinciale du Lualaba, deux groupes se dégagent. L'un soutient la vice-gouverneure Fifi Masuka faisant office du gouverneur des provinces et l'autre restait fidèle au gouverneur Richard Mouyej, absent de la province depuis plusieurs mois pour des raisons de santé. Au cours de la plénière de vendredi dernier, le rapporteur du bureau, l'honorable Donati Mboj, qui soutient le gouverneur Richard Mouyej, a demandé que le gouverneur intérimaire vienne s'expliquer sur la marche de la province, caractérisée notamment par des tensions entre communautés et aussi par la démission d'un ministre et la suspension de deux autres par la vice-gouverneur. Pour l'honorable Donati Mboj, la province va mal. Demande qui a été rejetée d'après son auteur. Le samedi, une pétition visant le rapporteur a été déposée. On lui reproche notamment d'avoir fait adhérer les députés provinciaux à l'Union sacrée sans passer lancée par le président de l'Assemblée provinciale. Ce lundi, nous apprenons que d'autres pétitions ont été déposées aussi et elles visent tous les autres membres du bureau. Le président Louis Kamwenyi, par exemple, est accusé de manipuler les membres du bureau de l'Assemblée provinciale au profit du gouverneur intérimaire. C'est donc dans les prochaines heures que l'opinion sera fixée sur la suite qui sera réservée à toutes ces pétitions. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis, le Premier ministre a bouclé hier dimanche après-midi sa visite de 48 heures à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Avant de quitter la ville, Samalou Konde Kienge a parlé de la situation sécuritaire qui prévaut dans la région avec plusieurs délégations qu'il a reçues, dont la Fondation Katangaise et les leaders religieux. Des pistes et des solutions lui ont été proposées à l'occasion pour mettre un terme à l'insécurité dans la région. Une fois encore, une correspondance de Jean Gandou.
Parmi les personnes reçues par le Premier ministre Samalou Konde pour parler de la situation sécuritaire dans la province du Haut-Katanga se trouvent les membres de la Fondation Katangaise. Cette dernière est une structure qui regroupe toutes les associations socioculturelles de l'espace Grand Katanga. Son président Raphaël Moututa a indiqué que pour lutter contre l'insécurité causée par les insurgés Bakata Katanga, la Fondation Katangaise a demandé au Premier ministre de dialoguer avec ces Bakata Katanga pour chercher à connaître leurs véritables revendications. Raphaël Moututa.
Nous avons songé qu'il fallait nécessairement qu'on puisse organiser la baraza, c'est-à-dire nous sommes des Africains, quand il y a des problèmes, il faut qu'on se mette sous l'arbre à palabre et qu'on parle, qu'on organise, qu'on coordonne, qu'il y ait un dialogue. Nous avons vu de l'autre côté à Beni tout consort, il y a des insurgés qui sont venus.
Les leaders religieux qui ont aussi rencontré les premiers ministres ont proposé que chacun d'eux sensibilise les jeunes de sa communauté pour qu'ils n'intègrent pas les mouvements subversifs, ce qui pourrait contribuer à lutter efficacement contre l'insécurité décriée dans la province. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, au Nord Kivu, le courant a repris de plus belle aujourd'hui lundi à Beni. Mais pour cette première journée, certains élèves font encore l'école buissonnière. Reportage à Beni de Guylaine Kassassia.
Pour cette première journée, la reprise est encore timide dans toutes les écoles. Dès les premières heures, les salles de classe étaient quasi vides. Dans une salle de classe d'un effectif de 60 élèves, on pouvait trouver seulement 6 élèves. En dépit de ces effectifs réduits, nous dispensons les cours pour rattraper les temps perdus, a fait savoir une enseignante de la 6e année à l'EPA Beni que Radio Okapi a rencontré dans sa classe. Certains parents rencontrés disent avoir volontairement retenu les enfants à la maison pour observer d'abord l'ambiance pour cette première journée. Certains disent craindre pour la sécurité de l'école. Enfants, vu le climat qui a régné dans certaines écoles les jours passés. Pour sa part, le sous-préfet de la sous-division de l'EPST Beni promet se prononcer sur l'effectivité de cette reprise dans les heures qui suivent. Ceci après une ronde qu'il va effectuer dans toutes les écoles de sa juridiction. Pour rappel, c'est le 5 avril que les activités scolaires avaient été aussi arrêtées à cause des journées ville morte décidées par cet groupe de pression pour réclamer le retour de la paix dans la zone de Beni. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Non loin de là, en Ituri, 13 000 miliciens de la Force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, ont été tués et 14 autres capturés lors des affrontements d'hier dimanche avec les FARDC au centre de Nyankoundé dans la chefferie de Anisoma, située à 45 km en territoire d'Irumu. Les FARDC qui annoncent la nouvelle aujourd'hui affirment avoir récupéré 3 autres localités voisines de Nyankoundé. À Bounia, Martial Kizabiamungu.
Ces opérations militaires ont permis aux FARDC de chasser les miliciens de la Force patriotique intégrationniste du Congo FPIC dans les centres de Nyankoundé et aux localités Kalingi, Malubata et Malumbabo. Selon les porte-parole de l'armée à l'Ituri, ces rebelles ont occupé ces villages pendant 3 semaines. Grâce à l'appui aérien et logistique de la MONUSCO, les forces loyalistes ont pacifié ces entités, indique le lieutenant Gilles Ngongo. 13 miliciens ont été neutralisés et 14 autres capturés, dont 7 blessés graves qui sont internés à l'hôpital général de référence de Nyankoundé, affirmaient les porte-parole de FARDC. Un militaire a également été grièvement blessé au cours de ces combats. L'armée demande à la population qui avait fui de regagner son millier car, selon elle, la situation est sous contrôle et leur sécurité garantie. Certains notables de cette chefferie déplorent cependant quelques scènes de pillage dans des habitations par les belligérants. Ils encouragent les autorités à privilégier la voie de négociation négociations avec ces miliciens pour éviter les effets collatéraux de la guerre sur la population civile. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Et puis l'état de siège décrété vendredi dernier à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi Tshilombo dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour mettre fin au massacre des civils par des groupes armés suscite plusieurs questionnements. Conformément à l'article 85 de la Constitution du pays, une loi devrait en principe déterminer les modalités d'application de l'état de siège. Comme cette loi n'est pas encore votée, tous les regards sont tournés vers l'ordonnance présidentielle en vertu de l'article 145 de la Constitution. C'est ce que nous explique Michel Kifindangoy.
Par définition scientifique, l'état de siège est un dispositif juridique généralement mis en œuvre par le gouvernement en cas de péril imminent pour la nation. En entendant l'ordonnance du chef de l'État qui en déterminera les mesures d'application, notez qu'en principe et conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l'état de siège comprend plusieurs dispositions dont le remplacement de la police par l'armée pour la sécurité publique, la restriction de certaines libertés de l'état de droit telles que garanties par le titre 2 de la Constitution, comme les libertés de circulation, de manifestation et d'expression, le contrôle des médias, la mise en vigueur d'un couvre-feu sur tout le territoire concerné par l'état de siège. Notez que la mobilisation nationale peut aussi être envisagée et décidée. Sur le plan judiciaire, les tribunaux civils seront remplacés par des tribunaux militaires. Toutes ces mesures ne peuvent être appliquées que durant une période de 30 jours renouvelables, conformément à l'article 144 de la Constitution.
Michel Kifindango est sur Radio Okapi. Revenons un instant au Nord Kivu où le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord appelle les journalistes à plus de responsabilité dans le traitement de l'information en temps de guerre. C'est à l'occasion de la journée de la liberté de la presse ce lundi 3 mai. Le lieutenant Anthony Mualouchaï demande par conséquent aux journalistes de consulter les sources sécuritaires avant la diffusion des informations à caractère sécuritaire. Il est dit à Guylaine Kassassia.
Notre région fait face à un ennemi terroriste qui est différent d'autres provinces. Et au-delà de liberté d'expression, au-delà des principes journalistiques, les journalistes doivent savoir d'abord qu'il est congolais. Donc il doit faire montre du patriotisme. Vous savez, l'information sécurise. Et si les journalistes ne donnent pas une information certifiée par les services de sécurité, ça peut mettre encore la communauté en danger. Et ne doit pas faire l'apologie de l'ennemi. Donc, quand le journaliste, au nom de la liberté de presse, intensifie les actions de l'ennemi dans le média, et ça crée aussi la psychose au niveau de la population, le journaliste, c'est-à-dire que dans ce qu'il fait comme travail, il doit contribuer en communiquant positivement pour l'armée. On ne peut pas passer une information sécuritaire dans le média sans citer la source officielle.
Pour la suite du journal, rendons-nous maintenant dans la province du Maïndombé où l'évêque d'Inongo appelle l'inspection générale des finances à auditer au plus vite la gestion des fonds alloués à cette province. Monseigneur Donatien Bafouidi Nsoni dit avoir constaté que cette province est toujours enclavée et la situation socio-économique des habitants n'est fait qu'empirer malgré les ressources locales disponibles. À Bandundouville, Irène Mboma.
Selon l'évêque d'Inongo, Monseigneur Donatien Bafouidi Nsoni, il est inconcevable qu'au regard de ses innombrables ressources, notamment humaines, agricoles, aquatiques, halieutiques et géologiques, la situation socio-économique de la population de la province du Maïndombé demeure toujours déplorable. À l'en croire, avec une bonne gestion de toutes ses potentialités, les conditions de vie de cette population seraient déjà améliorées. Les prélats catholiques en appellent donc à un audit urgent de l'inspection générale des finances dans la province du Maïndombé afin que les biens publics soient respectés. Donatien Bafouidi Nsoni.
Nous en appelons à un audit urgent et sans complaisance de la gestion des ressources locales et autres fonds alloués à la province par les instances habilitées, en l'occurrence l'inspection générale de finances, pour que le respect des lois et du bien commun serve à bâtir réellement un état de droit. Il est plus qu'urgent pour les autorités, aussi bien au niveau national que provincial, d'initier des projets de développement de la province de Maïndombé pour la sortir de son enclavement et des ténèbres dans lesquelles elle risque d'être plongée encore longtemps.
L'évêque du Nongo invite les fils et les filles du Mai Ndombe, chacun à son niveau de responsabilité, au changement profond dans la manière de vouloir servir ou de gérer cette province. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En République centrafricaine, les méthodes brutales des instructeurs russes qui combattent ces jours-ci aux côtés de l'armée régulière suscitent inquiétude. Le groupe de travail des Nations Unies sur les mercenaires alerte sur une série de violations graves des droits de l'homme qui leur sont attribuées. L'agence France Presse AFP parlait des documents confidentiels reprenant les avis de nombreuses victimes. Mini Minawi, un ancien chef rebelle de l'armée de libération du Soudan, a été nommé gouverneur du Darfour ce lundi matin par le Premier ministre. Il devient ainsi le plus haut responsable de l'État dans la province toujours déchirée par les actes de violence. Et puis à l'approche des congés d'été, la Commission européenne a proposé ce lundi de permettre l'entrée dans l'Union européenne aux voyageurs venant de pays tiers et ont reçu d'ores et déjà les vaccins contre le coronavirus autorisés au niveau européen selon un communiqué publié ce matin.
L'invité.
Notre invité, c'est le président du comité de suivi des accords de cessez-le-feu signés entre les groupes armés d'Uvira, de Fizi et de Mwenga au sud Kivu. Matabishi Rachidi parle de la situation des déplacés internes après une mission effectuée à Bouéguéra dans la plaine de la Ruzizi. Ces déplacés ont fui les affrontements dans les hauts plateaux de la chefferie de Bafouliru. Il s'entretient avec Fiston Goma Mayabala.
Maître Matabishi Rachidi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous revenez de Bouéguéra dans la plaine de la Ruzizi, où vous avez été en contact avec les déplacés en provenance des hauts plateaux. Quel a été votre constat?
Nous avons vu les déplacés de provenance de Kitoga, et Kageregere, Kifune, Murambi, Bibangwa, dans le moyen et au plateau de la chefferie de Bafouliru.
Ils sont combien?
Ils sont au nombre de 2320. Il y a d'autres qui sont en Lemera. C'est plus de 5000 déplacés. Alors, ce que nous avons rencontré à Bouéguéra, c'est 2320 déplacés.
Quel est leur état?
Leur état psychologique est très mauvais. Comme vous voyez, et quelqu'un qui a laissé sa maison et aller et se déplacer chez l'autre, il n'a plus espoir de vivre. Ils sont là sans assistance. Ils n'ont pas... Là où ils sont cantonnés tous, ils ont trouvé des écoles, des églises, c'est là où ils se sont réfugiés.
Ils sont en majorité des hommes, des femmes ou comment?
La majorité sont les jeunes, les femmes et les enfants, les vieillards qui sont nombreux. Ce qui les a motivés de quitter les villages sont des affrontements qui ont été menés par Turguaneho et la coalition des Maïmaï. Turguaneho aussi, des Mourambia, est venu attaquer Masango. Il y aura l'échec. La population a eu vraiment peur de rester dans ce village parce qu'il y aurait peut-être les représailles du côté Maïmaï. C'est ce que la population a craint. Une fois resté là, peut-être ils seront massacrés. C'est la peur. Cela est provoqué par les tireurs de ficelles. On vient fraîchement d'un dialogue où les communautés ont pris des engagements pour leurs différends. Alors, n'attendez que la restitution. Chaque communauté a le devoir de restituer les engagements qu'ils ont pris par rapport à d'autres communautés. Et il y a les groupes armés aussi qui ont pris des engagements. Et les groupes armés attendent ça. Mais pourquoi maintenant la zone est déchirée encore? Il y a certains qui veulent saboter les dialogues de Kinshasa en manipulant les Maïmaï, en manipulant les Turguaneo. Et voilà. Faut pas oublier aussi qu'il y a les groupes armés étrangers. Et la victime, c'est la population de Kaolo-Olo, avec les groupes armés étrangers.
Mais vous ne vous êtes pas intéressé aux personnes qui sont concernées directement sur le terrain, pourquoi?
Les groupes armés, ils ont été représentés favorablement parce que chaque seigneur de guerre a signé un feu de route qui a autorisé son délégué à participer au dialogue. C'est moi qui les a amenés à Kinshasa. Je suis parti avec eux. Donc, pour les communautés, c'est ici de leurs intracommunautaires. Ce sont les communautés qui ont choisi leurs délégués pour les représenter. Les groupes armés ont été valablement représentés. Et ils ont pris les engagements parce qu'ils ont été valablement représentés. Parce qu'on nous a demandé 10 délégués sur 84 groupes armés opérant dans la zone. Alors on nous a demandé 10 membres de groupes armés. Et on a choisi, dans chaque axe, il fallait qu'il y ait une représentativité. Et c'est ce qu'on a fait. Aucun membre du groupe armé est venu d'Uvira, de Bukavu, ni de Goma. Tous sont venus dans la zone
des
hauts plateaux, d'Uvira, Fizi et Mwenga dans l'Itombwe. Les tireurs de ficelles, ils ont eu l'occasion de manipuler pour qu'il y ait sabotage des engagements pris. Et c'est là, nous, comité de suivi, on n'acceptera jamais.
Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de votre comité par rapport à cette nouvelle donne dans la région?
Nous allons dénoncer pour aider le gouvernement à avancer, pour que la paix revienne, pour que la sécurité soit rétablie. C'est ce que nous allons travailler. Nous sommes en train d'organiser une mission pour mieux identifier et voir la faisabilité et la possibilité de les faire retourner dans leurs villages respectifs.
Avec quelle garantie là-bas dans leur zone de retour?
La garantie, première des choses, nous voulons travailler sur le respect de l'accord et que cette population ait confiance en notre armée. Parce que c'est notre armée qui leur garantit la sécurité. Et que notre population ait la confiance à la MONUSCO. Nous travaillons avec la MONUSCO pour l'installation de l'SIDI à Kahololo pour permettre que la population déjà en déplacement puisse retourner. Et appeler aussi les groupes armés, les Maïmaï, les Tourguaneo et les autres au respect de l'accord de cesser les faits.
Merci beaucoup, M. Matabish.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le président du comité de suivi des accords de cessez-le-feu signés entre les groupes armés d'Uvira, de Fizi et de Mwenga. Il était interrogé. Matabisi Rachidi était interrogé par Fiston Ngoma. Il est 18h20 à Kinshasa. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Merci infiniment à Noël Aluzitu qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelle Équipe Lamondo. Sachez que l'actualité se poursuit sur les différentes plateformes de Radio Okapi.
Merci à vous Pascal Massirika de nous l'avoir présenté. On vous retrouve tout à l'heure à 19h heure de Kinshasa pour le bulletin d'information avant de céder l'antenne à l'équipe.